Rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel, soyez nombreux. Et le journal sera présenté par Nicolas Sûr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Au Cameroun, l'élection présidentielle prévue en octobre est dans tous les esprits. La classe politique est déjà en effervescence. Pas moins d'une dizaine d'opposants a déjà annoncé son intention de briguer la magistrature suprême. C'est le cas notamment de Cabral Libi et de Joshua aussi, arrivés respectivement 3e et 4e il y a 7 ans. Maurice Kamto, 2e en 2018, est également candidat déclaré. D'ailleurs, jeudi dernier, il a lancé, et c'est une première au Cameroun, un appel aux dons pour financer sa future campagne. Reste à savoir si sa candidature sera recevable. En tout cas, le sujet fait débat en ce moment. Et quid du président sortant? Après plus de 4 décennies au pouvoir, Paul Biya continue d'entretenir un vrai faux suspense. Faux suspense, diront certains, puisque les textes de son parti sont très clairs. Le président du RDPC est le candidat naturel à la présidentielle. En tout cas, contrairement à plusieurs évêques qui, à titre personnel, ont pris position ces dernières semaines contre cette éventualité, eh bien, les chefs coutumiers ont, eux, apporté leur soutien à la candidature de Paul Biya pour un 8e mandat. Alors, que vous inspire ce climat de pré-campagne, cette effervescence électorale? Êtes-vous serein en vue de ce scrutin présidentiel? 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Il y a par exemple Jean-Baptiste qui nous a écrit de Yaoundé. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Juan, bienvenue à Yaoundé, bonjour aux auditeurs de RFI.
Et on vous a donc rappelé, vous disiez que cette effervescence démontrait la vitalité de la démocratie dans votre pays.
Ah ben tout à fait, je pense qu'à partir du moment où le président de la République a annoncé dans son discours du 31 décembre dernier les élections présidentielles et régionales, nous allons assister toute cette année à une très belle ambiance, j'allais dire une folle ambiance préélectorale d'abord et électorale ensuite.
Mais l'ambiance est-elle, excusez-moi Jean-Baptiste, l'ambiance est-elle vraiment bonne en ce début d'année quand on voit la polémique ne serait-ce qu'autour de la possible candidature de Maurice Kamto?
Ben écoutez, cela va de soi, étant entendu que les avis sont tout à fait divergents. Cela dénote justement de ce que je disais, la vitalité de la démocratie camerounaise. Les opinions, il y a le choc des opinions. Mais maintenant, en ce qui concerne les candidatures, j'ai la faiblesse de penser que ce sont des intentions de candidature jusqu'à présent, même pour le président sortant, puisque aucune candidature n'a pas encore été validée, non seulement par l'institution des élections, mais également par le Conseil constitutionnel.
Oui, il faut attendre que le corps électoral soit convoqué, et il est convoqué 90 jours avant le scrutin. Donc, on suppute une élection mi-octobre, donc il faudra patienter jusqu'à la mi-juillet, effectivement. Et le fait justement qu'on voit que la société civile se mobilise déjà, que les évêques, certains d'entre eux, prennent position, que les chefs coutumiers, la semaine dernière, ils se sont rassemblés à Yaoundé au Palais des Congrès pour élire un nouveau chef, et ils profitent de l'occasion pour signer une motion de soutien à la candidature de Paul Biya.
Eh bien, écoutez, les élections donnent lieu à des marchandages extraordinaires, les marchandages politiques, et donc la sortie à la fois des chefs traditionnels, d'un certain nombre d'éliteurs présumés, d'un certain nombre de partis politiques et beaucoup d'autres leaders qui s'expriment sur la question, s'expliquent en majeure partie de cet état de choses. Donc, moi, je crois que la présidentielle va offrir encore au Cameroun beaucoup de choses à voir et à entendre d'ici octobre prochain, théoriquement, date prévue pour les élections présidentielles.
Voilà, on n'a pas encore de date précise pour le scrutin, mais c'est effectivement au mois d'octobre. Jean-Baptiste, merci d'avoir lancé le débat. Bonne journée à Yaoundé. Je retourne sur WhatsApp. Émile à Douala nous dit « Mais quels que soient les candidats et leur soutien, mon souhait est que le code électoral soit modifié et qu'il soit accepté par tous. Ainsi, le meilleur pourra gagner et cela évitera les contestations post-électorales. » David, bonjour.
Bonjour Juan.
À Douala au Cameroun, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-Baptiste à l'instant qui disait que cette effervescence, eh bien, c'était le signe de la vitalité politique et démocratique dans votre pays?
Oui, Juan, je partage en partie son analyse. Mais sauf qu'ici, il a oublié de dire une chose. S'il y a cette effervescence, c'est parce que la société civile ou l'opposition veut, et même le peuple camerounais, on veut quelque chose de différent. Parce que pendant les 4 décennies, vraiment, ça n'a pas été du tout vraiment ça. Et les Camerounais aujourd'hui veulent le changement. Voilà pourquoi il y a cette effervescence. D'ailleurs, les partis politiques, comme l'honorable Kaba Libi, le professeur Kamto, ils ont tellement rappelé les troupes pour l'inscription massive sur les listes électorales.
Il y a du monde, oui. Justement, pour s'inscrire sur les listes électorales.
Absolument, Juan, oui. Absolument. C'est ce que les Camerounais font aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a même une polémique autour du fichier électoral, où on veut que la liste nationale soit même soit publiée. Parce qu'aujourd'hui, on veut quelque chose. Cette effervescence démontre tout simplement que oui, on est prêt à un changement au Cameroun.
En tout cas, changement que vous souhaitez, David, visiblement Paul Biya, évidemment ses soutiens, j'en parle depuis tout à l'heure puisque ça n'a échappé à aucun Camerounais, les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, pardon, eux soutiennent déjà cette candidature.
Oui, Juan, toujours, ça a toujours été comme ça. Si on prend depuis 97 jusqu'à nos jours, les chefs sont toujours levés pour soutenir le président Biya et bien d'autres corps au Cameroun. Mais sauf que les chefs, ça les engage, ça n'engage pas les Camerounais. Oui. Voilà ce qu'il faut faire.
Ils soutiennent le président. Oui. Je vous coupe la parole, David. Il y a un auditeur, enfin, je retrouve son message, qui, lui, effectivement, trouve que ce n'est pas très surprenant que les chefs traditionnels soutiennent cette candidature potentielle, puisqu'il nous dit « L'État leur verse un salaire, ils sont appelés les auxiliaires de l'administration, ils peuvent donc être faits et défaits par l'administration, à la différence des évêques qui, eux, sont libres d'exprimer ce qu'ils pensent. » Et cet auditeur, Abou Sidik, nous dit « Eh bien, tout cela, finalement, ce soutien des chefs coutumiers est une manipulation. »
Absolument, c'est une manipulation pure et simple. Et les Camerounais aujourd'hui l'ont compris. Voilà pourquoi, bon, ils sont libres de soutenir le président, mais sauf que la réalité sera tout autre. Voilà pourquoi on aimerait que le code électoral soit transparent, surtout les camps. Et le moment venu, parce que le Cameroun aujourd'hui aspire au lendemain meilleur. Et cela va passer par une alternance. Puisqu'après 42 ans, voyez-vous, dans quelques jours.
Je voudrais qu'on donne la parole à d'autres auditeurs, parce qu'on a bien compris que vous souhaitiez l'alternance, que ça passait justement par des élections transparentes, une révision du code électoral. Qu'en pense Andrin ? Bonjour.
Bonjour, Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Yaoundé ?
Oui, exactement, je suis à Yaoundé, oui.
Alors êtes-vous surpris par cette effervescence politique à 9 mois du scrutin ?
Non, pas du tout. C'était prévisible. Les Camerounais ont fait l'alternance. On a besoin d'alternance, on a besoin que les choses changent. Donc, l'engouement sur l'inscription sur les listes électorales et puis les tractations qui ont lieu en coulisses. Et on a un peu l'habitude au Cameroun. Mais ouais. Moi, je pense que l'enjeu de ces élections, c'est la transparence. Je vous assure que le code électoral, depuis de nombreuses années au Cameroun, a été querellé. C'est un code électoral qui n'était pas limité en réalité. Je vous assure que on a des instables dans l'opposition. Des personnalités comme le professeur Kamto, même comme Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi. Et je vous assure que le président Biya ne fait plus peur en réalité. Je vous assure, il ne fait plus peur. Oui. Ce qui fait peur, c'est la transparence. Le jeu électoral n'est pas...
Excusez-moi, Andrin, la polémique autour de la recevabilité de la candidature de Maurice Kamto, elle est justifiée ou pas, selon vous?
Oui, en réalité, je pense que le professeur Kamto paye un peu la politique, la chaise vide. Lors de la dernière élection législative, en réalité, c'est l'erreur de ne pas y aller.
Votre voix se robotise, Andrin. Le réseau se dégrade déjà depuis un petit moment, mais vous faites référence au fait que son parti, le MRC, a boycotté effectivement les dernières législatives et municipales. Du coup, le parti se retrouve sans élus locaux ni députés. Et ce sera aux juristes de trancher, mais selon le camp présidentiel, Kamto ne peut pas se présenter. En tout cas, il ne pourra pas se présenter sous les couleurs de son parti, puisqu'il son parti n'a ni d'élus, ni élus locaux, ni députés. Alex, bonjour.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour aux multiples auditeurs de la Radio du Monde.
Vous êtes dans l'extrême nord du Cameroun.
Oui, bien ça, à la frontière avec le Tchad.
Ah, merci de nous écouter sur place. Vous êtes à Yagoua, pour être très précis. Quelle est votre analyse de la situation politique en ce début d'année électorale ?
Je suis un tout petit peu inquiet de la cacophonie dont le Cameroun est en train de vivre tous ces derniers temps, d'abord avec la sortie des évêques et ensuite les chefs traditionnels qui sont venus en contre-pied à la sortie des évêques pour dire que non, monsieur le président Biat doit briguer un 8e mandat. Mmh. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est l'alternance.
Comme... Alex, ça veut dire que vous regrettez ou pas la sortie de ces trois évêques, hein, puisqu'ils sont trois finalement à avoir pris position contre une candidature éventuelle du président Biat.
Le deuxième, personnellement, je le fréquente même, Monseigneur Barthélémy Aouda Ourgo, je le fréquente. C'est tout à fait normal, vu... Et la souffrance dont le peuple camerounais est en train de gémir depuis plus de deux décennies, voire même trois, c'est normal que ces évêques puissent sortir pour dire que non, en réalité, M. Biat a déjà servi le pays et il est temps qu'il se repose.
Ouais. Effectivement, l'évêque Yaouda est l'évêque de votre ville, Yagoua. Donc, quand vous dites que vous le fréquentez, vous assistez à ses messes. C'est vrai qu'il avait dénoncé avec véhémence la souffrance de la population. D'ailleurs, ses propos sont très vite devenus viraux sur les réseaux sociaux. Alex, donc, les évêques ont raison. Les chefs traditionnels ont également raison de leur côté d'intervenir, de soutenir ?
Oui, pour les chefs traditionnels, moi je m'attendais à ce que les autodidactes de la politique, c'est-à-dire le ponte du régime, qui ont rappelé à l'ordre les évêques pour dire qu'en réalité les évêques ne devront pas se mêler de la politique parce que les prélats et patati patati, ils devaient également rappeler à l'ordre les chefs traditionnels qui sont les gardiens de la tradition, c'est ce qu'il faut souligner premièrement. Si les évêques ne doivent pas se mêler de la politique, ça veut dire que même ces chefs traditionnels, malgré qu'ils sont les auxiliaires et de l'administration, ne doivent plus non plus se mêler de la politique. Si on prend le cas de ces chefs traditionnels qui sont chez nous ici, ils sont aussi des leaders religieux et des imams des mosquées. Donc ils ne doivent plus aussi non plus se mêler de la politique.
Ouais. Donc laissons la politique aux politiciens.
Laissons la politique aux politiciens.
C'est ce que vous dites, Alex.
Oui, c'est que nous, les Camerounais, nous souhaitons, c'est-à-dire... Moi, personnellement, je reconnais l'effort que le président Biat a fait pour ce pays. Il a tant servi le pays. Maintenant, on a besoin de sa sagesse-là dans un autre aspect. C'est-à-dire, nous voulons que ses prédécesseurs soient en mesure de venir lui demander conseil que le père, voilà, telle situation nous dépasse. Donnez-nous votre expertise pour nous faire sortir du gouffre dans lequel nous nous trouvons. On a besoin de sa sagesse, mais comme il l'a dit, il faut qu'il aille se reposer au village. Maintenant, qu'il laisse la main à une autre personne pour gérer aussi le Cameroun.
C'est ce qu'il avait dit, effectivement, lors d'une conférence de presse il y a quelques mois, mais en même temps, ça ne vous a pas échappé si vous avez suivi son discours à la Nation lors de ses vœux. Il a dit, de mémoire, qu'il était sensible aux nombreux soutiens qu'il recevait ces derniers temps. On repasse au standard, mais d'abord un petit détour sur les réseaux sociaux. Il y a Cédric qui nous dit « Depuis 1990, avec l'instauration du multipartisme, l'opposition devrait faire une autopsie de toutes les élections. Elle devrait former une coalition, sinon à quoi lui serviront les maigres pourcentages qu'elle recueillera, comme d'habitude, lors du scrutin présidentiel ?» Voilà une stratégie souhaitée par cet auditeur, que l'opposition fasse bloc, que l'opposition présente un candidat unique, pourquoi pas. Henri, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors vous êtes persuadé que le président Biat passera la main. Je cite la petite fiche du Standard.
Effectivement, Juan, je suis persuadé que le président Biat passera la main, mais comme à l'accoutumée, il avance masqué et il garde le suspense jusqu'au bout et je pense qu'il passera la main.
C'est-à-dire qu'à la dernière minute, un dauphin sera désigné ?
Effectivement, et un dauphin surprise, parce que si vous lisez entre les lignes, le président Biat sait pertinemment qu'il y a des grosses batailles dans son propre camp, des batailles politiques dans son propre camp qui veulent absolument l'alternance. Il sait que les clans vont se déchirer s'il se prononce très tôt. Donc je pense qu'il va se prononcer à la dernière minute. Il est conscient du fait que même dans son propre camp, il devient de plus en plus contesté.
Ouais, mais j'ai retrouvé, excusez-moi Henri, les propos du président Biya, propos tenus dans son traditionnel discours de fin d'année. Votre confiance m'honore et me sert de boussole.
Évidemment, pour moi, c'est un discours politique, Juan. Le président Biya est un félin en politique et il sait pertinemment que toute phrase qu'il prononcera attirera l'attention des uns et des autres et il a toujours agi ainsi. Le président Biya, je pense qu'il est conscient que la plupart des Camerounais, même dans son propre camp, ne sont plus favorables à ce qui se représente.
Bon, et en face, Henri, l'opposition, que doit-elle faire, Cédric?
L'opposition est plus...
Cédric disait qu'il faudra une coalition.
Oui, Juan, comme on a coutume de le dire, parfois l'union de plusieurs faibles également peut donner un fou. Vous savez, l'opposition aujourd'hui est de plus en plus affaiblie. Souvenez-vous, en 2018, Maurice Kamto, avec des soutiens très importants, notamment pour le Rick King et le maire de Diombé Pendja, on avait Pende Koka, on avait Maître Ndoki, on avait Célestin Jamin. Tous sont en foi avec lui, d'autres sont décédés et le MRC est plus que jamais fragilisé. Et le MRC de 2018 n'est pas celui de 2020.
Bah, entre-temps, le MRC a boycotté les législatives et les municipales.
Effectivement. C'est pourquoi j'ai dit le MRC va plus affaiblir l'opposition en général. Je vous prends un simple exemple, le président Cabral Libi, qui se voit, n'est-ce pas, qui voit ses propres militants, les propres cadres de son parti voter contre le PCRN lors des élections, les dernières élections régionales. Comment expliquez-vous que l'opposition vote contre lui-même?
Bon.
C'est en réalité l'image de l'opposition.
Henri, je vous coupe la parole, je suis désolé, mais votre analyse politique était pertinente, intéressante, mais vous n'êtes pas le seul à souhaiter prendre la parole ce matin sur RFI. Merci en tout cas. À très vite, Henri. On aura l'occasion de reparler de la politique camerounaise dans cette émission. Xavier Edgar, bonjour. Allô, Xavier Edgar. Ah, si je coupe Henri pour donner la parole à Xavier Edgar, mais qu'il n'est pas là, êtes-vous là? Êtes-vous là?
Oui. Je suis là, je vais répondre.
C'est nous qui n'avons peut-être pas appuyé sur le bon bouton, toutes nos excuses. Xavier Edgar, à l'instant, Henri disait être persuadé que Paul Biya passera la main, qu'il y aura un dauphin à la dernière minute. Vous, pour vous, c'est une évidence. Il ira à cette élection présidentielle.
Oui, c'est une évidence qu'il ira à cette élection présidentielle parce que ce sera un moyen déjà de ne pas en rajouter à ce qui se passe au niveau du nord-ouest, du sud-ouest. C'est-à-dire maintenir la paix. Parce que si, d'autant plus qu'il n'y a pas de dauphin qui soit déjà désigné par eux, à moins que ce ne soit à l'intérieur du RDPC, oui. Et si il ne le fait pas, oui. Ça va causer un désordre.
Oui, Xavier Edgar, excusez-moi, avez-vous votre haut-parleur de branché?
Non, j'ai pas de haut-parleur dans la branchée.
Ah bon, parce que on ne vous entend pas très bien. On essaye de régler ça hors antenne. Il nous reste 2 petites minutes. À mon avis, ce sera un peu compliqué. Emmanuel, peut-être alors. Bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous vos auditeurs.
Dans quel état d'esprit êtes-vous, Emmanuel, à 9 mois de la présidentielle?
Eh bien, bon, il faut reconnaître, je suis personnellement très dubitatif par rapport à l'issue de ces élections. Surtout avec les dernières agitations, les interventions des prélats et en plus les chefs traditionnels qui étaient venus pratiquement pour contrer les prélats qui ont dénoncé, en tout cas qui ont demandé à Paul Biya de ne plus se présenter.
Vous diriez que le climat est tendu?
Oui, dès l'instant où des leaders sociaux tels que des chefs traditionnels et des prélats prennent certaines positions tranchées, naturellement la tension, sinon la situation peut être tendue, est tendue en tout cas.
Merci Emmanuel, merci de nous écouter à Marois. Je sais que vous êtes nombreux sur place à Marois. D'ailleurs, on avait un auditeur en première partie qui nous avait également contacté de cette ville. Merci à tous de votre fidélité. On sera de retour demain matin, 8h10, temps universel. Nous parlerons du Tchad. Et oui, une page s'est tournée hier au Tchad. La transition est définitivement terminée. Ce sera l'occasion de dresser un bilan.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, il sera question d'une infection qui touche 49 millions de personnes dans le monde.
Oui, c'est la septicémie, hein. L'infection, le sepsis même quand elle s'emballe, un risque sanitaire d'emballement infectieux dont on parle finalement assez peu. Pourtant, c'est une menace majeure. Un décès sur 5 dans le monde, d'après l'OMS, est lié à un état septique. Alors il va y avoir des spécialistes pour vous expliquer les symptômes et surtout les prises en charge.